Alors bonjour mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Bienvenue à la Fonderie Darling pour le lancement du quartier de l'innovation. Cette salle présentant quelques défis logistiques en termes d'acoustique, je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît. Je me présente Sébastien Langevin, agent d'information à l'ETS. Les gens de McGill et de l'ETS sont très heureux de vous voir en si grand nombre aujourd'hui pour le grand lancement du quartier de l'innovation. L'ambiance sonore qui était jouée tout à l'heure s'intitule « Unsounding Objects ». The piece was performed by Zachary Hall, a McGill PhD student in music technology, and the instrument is designed by Ian Atwick, also a McGill PhD student in music technology. L'instrument est le fruit des recherches menées à McGill en matière d'innovation sonore. Aussi, deux artistes du projet Capture, coiffés de boîtes miroirs, vous les avez sûrement remarqués, offraient une performance déambulatoire plutôt inusitée. Ils reviendront plus tard après la présentation. J'aimerais maintenant souligner la présence de certains dignitaires et élus, tous sensibles à l'avenir et au développement de Montréal. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous M. Jean-François Lisée, ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur et ministre responsable de la région de Montréal. Bonjour, M. Lisée. Monsieur le sénateur Ghislain Maltais. Bonjour, M. Maltais. Monsieur le sénateur Larry Smith. Bonjour, M. Smith. Madame Marguerite Blais, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Bonjour, Mme Blais. Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoît Doret. Bonjour, M. Doret. Madame Louise Arel, conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe et chef de Vision Montréal. Bonjour, Madame Arel. Monsieur Richard Bergeron, conseiller de Jeanne-Mance et chef de projet Montréal. Bonjour, Monsieur Bergeron. Monsieur Richard Deschamps, conseiller de La Salle-sur-Saint-Louis et membre du comité exécutif de Montréal. Monsieur Deschamps. Monsieur Alain Tassé, conseiller de Verdun et membre du comité exécutif de Montréal. Bonjour, Monsieur Tassé. Également avec nous, Monsieur Daniel Bélanger, conseiller de Saint-Paul-et-Mort, et Madame Sophie Thiébault, conseillère de Saint-Henri-Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles. Madame, Monsieur, bonjour. Sur les murs, vous voyez des informations pour vous connecter au réseau sans fil de la Fonderie. Vous pouvez publier des commentaires sur le fil Twitter qui apparaît au bas des écrans avec le mot-clé QIMTL. L'événement d'aujourd'hui est possible grâce à Développement économique Canada, le ministère des Finances et de l'Économie du Québec, la Ville de Montréal, la Société immobilière du Canada, Développement Les Bassins, Cadillac Fairview, Claridge et Devimco. On peut les applaudir. Le 4 avril dernier, à la suite d'une présentation devant la Chambre de commerce de Montréal, il a dit souhaiter que Montréal devienne le Davos de la créativité. Qui de mieux pour ouvrir ce lancement du quartier de l'innovation que M. Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil. M. Lamarre. Merci.
Wow, c'est impressionnant de voir autant de monde se mobiliser autour d'un projet comme celui-ci. Je suis ici très, très modestement à titre d'un des nombreux ambassadeurs. Et quand j'ai vu la liste des gens d'affaires qui se sont mobilisés autour de ce projet-là, j'étais extrêmement impressionné. Alors, j'aimerais saluer tous nos collègues des ambassadeurs de ce projet-là. C'est formidable. on dit qu'en temps électoral, c'est le temps de placer des nouveaux projets. Alors, tous les candidats, candidates à la ville de Montréal, on semble y avoir beaucoup de prétendants. Retenez mon rêve, Montréal, Davos de la créativité. Alors, c'est notre rêve. Et quand on m'a sollicité pour venir appuyer ce quartier de l'innovation, ça n'a pas été long de me convaincre. C'est extraordinaire pour Montréal. Monsieur le ministre, on vous encourage à continuer à nous appuyer dans nos projets. C'est très encourageant de voir nos politiciens et nos gens d'affaires travailler ensemble. On se prépare un gros C2 Montréal la semaine prochaine. Le quartier de l'innovation, évidemment, nous les ambassadeurs, on ne veut prendre aucun crédit de ce projet-là. C'est vraiment deux personnes incroyables du milieu de l'éducation qui pilotent ce projet-là. Et c'est mon honneur pour moi aujourd'hui de vous les présenter. Yves Beauchamp, qui est directeur général de l'ETS, et Heather Monroe-Bloom, qui est principale et vice-chancelière de l'Université McGill. C'est formidable de vous voir travailler ensemble. Merci pour ce que vous faites pour Montréal.
Alors, chers invités et partenaires du Quartier de l'Innovation,
chers élus, chers ambassadeurs du Quartier de l'Innovation, chers amis,
ma collègue et moi sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à cet événement que nous attendons depuis longtemps. En fait, l'idée a germé en 2009. L'ETS, que vous connaissez, dont son slogan c'est « Le génie pour l'industrie », est au cœur d'un quartier qui est en pleine ébullition, en plein développement, où il y a bien sûr une vie culturelle, sociale, qui est au cœur également d'une concentration la plus importante au Canada en termes de technologie d'innovation, avec quelques 20 000 personnes et plus de 350 entreprises, incluant bien entendu la force de l'ECTS. Et finalement, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas mettre l'expertise de notre institution au service de notre communauté? Et l'idée, finalement, de créer ce quartier a germé, où des actions et des activités pourraient éventuellement guider par un désir d'innovation. Quatre volets essentiels ont été mis en place dans cette vision. Un volet industrie, un volet formation et recherche, un volet urbain, mais surtout, et plus important, un volet social et culturel. Et c'est l'intégration et l'intersection de ces quatre volets qui définissent le quartier d'innovation. Et dès 2010, sous le leadership de ma collègue amie et de Mme Loulou, McGill s'est joint à l'ETS comme cofondateur pour pouvoir supporter et lancer le quartier d'innovation.
Merci Yves. L'engagement dans notre communauté est une partie importante de la mission de McGill, centrale de la mission de McGill. What attracted us was the wonderful opportunity to work together to do what has happened nowhere else in North America. We're a university that is focused on engineering and on technology applications, partners with a university that has all of the disciplines and professional faculties, a strong base of basic research to create a real innovation ecosystem. The opportunity for our students and our professors to work hand in glove with community members, with each other's universities, to apply learning and research in close proximity with businesses, with community agencies, and to provide service in everything that we do. QI a mené nos deux institutions à signer une entente de partenariat de 25 ans dans les domaines de la recherche, d'application de les résultats de nos recherches, d'enseignement professionnel et général, et aussi dans le domaine de services aux communautés. Together, McGill and ATS cover the full spectrum of innovation, from great ideas, basic research, through to applied research, innovation and technology transfer.
McGill a la réputation d'être l'une des universités les meilleures au monde, avec des partenaires sur les quatre coins de la planète. Pour nous, c'est un partenaire de choix pour développer le quartier de l'innovation.
ATS, la plus importante école de génie au Québec, pour le nombre de diplômés de baccalauréat en génie, ATS a développé une collaboration exemplaire avec l'industrie, particulièrement avec les PME. Et nous savons qu'aujourd'hui, les PME sont centrales dans le développement économique de nos régions, de nos nations.
L'innovation est essentielle pour la prospérité, non seulement économique, mais également sociale et culturelle. Vous savez, l'innovation, c'est l'application de la créativité. Notre prémisse, c'est à l'effet que l'innovation sera accélérée si elle occupe ou si elle a lieu dans un environnement qui est hautement créatif. Le QI va ainsi contribuer à l'innovation par la contribution ou les collaborations entre McGill, l'ETS, mais également tous ses partenaires, notamment les collèges, dont je salue la présence de certains directeurs généraux, les entreprises ainsi que les organismes, bien entendu. Le QI se voudra un quartier où non seulement les gens pourront y travailler, mais également y étudier, y vivre surtout, mais également s'y divertir, une communauté créative en marge de l'innovation.
We care deeply about the impact that the Cartier Innovation will have in developing the social and cultural and economic success of Montreal. And to make sure that our model was developing in a way that suits us, we benchmarked our plans against innovation developments around the world, from Boston to Manchester to Barcelona and to Grenoble in Switzerland. But as Yves has described so well, the QE will be unique, not only in the kind of teaching research and community services it provides, but in the urban ecosystem that will allow a great diversity of people, services, and people from demographic backgrounds to come together in this powerful way.
Mais avant de présenter les artisans qui vont animer le QE, j'aimerais annoncer que nous mettrons en place l'OBNL, un organisme à but non lucratif dont le conseil d'administration vous sera présenté ultérieurement, dont la gouvernance servira à assurer le développement du quartier d'innovation.
Nous aimerions remercier nos ambassadeurs.
Eh bien, nos ambassadeurs sont Éric Bergeron, Pierre Boivin, Jean-François Bouchard, Lise Brunet, Madeleine Caro, François Côté, Marcel Côté.
Daniel Lamar, Michel Leblanc, Monique Leroux, Sir Terry Matthews, Andy Nolman, Danny Ritter and Martine Turcotte. Nous voulons aussi remercier l'Université de Montréal, le gouvernement de Québec et le gouvernement du Canada.
Merci.
Merci à vous tous.
Et maintenant, corollaire, ce quartier d'innovation, nous vous invitons à regarder cette vidéo.
C'est de la fusion entre le savoir et la créativité que naît l'innovation. En multipliant les occasions de rencontre entre les artisans du futur, la relève et la communauté, nous favoriserons les échanges d'idées. Et ensemble, nous inventerons le monde dans lequel nous souhaitons vivre. N'est-ce pas Isaac Newton lui-même qui écrivait « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » ? Démarrage de l'immersion. Préparez-vous à plonger au cœur d'un écosystème d'innovation d'envergure internationale. Principalement situé dans le sud-ouest de Montréal, le quartier de l'innovation englobe un secteur chargé d'un riche passé industriel. Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, la Petite-Bourgogne et Griffintown. Ces quatre voisinages, autrefois modestes, voient leur destin changer profondément en 1825 avec l'inauguration du canal de la Chine. De simples villages, ils deviennent d'importants quartiers ouvriers. Jusqu'à la fermeture du canal en 1970, le secteur est considéré comme l'un des moteurs de la révolution industrielle au Canada. Aujourd'hui, le quartier renaît. Grâce à un partenariat entre l'École de technologie supérieure et l'Université McGill, sa mission se concrétise. Fort de son héritage industriel, le quartier de l'innovation sera un espace de concertation, un catalyseur qui favorisera l'émergence de nouvelles technologies. Depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée, le quartier de l'innovation deviendra un terrain de jeu de prédilection des chercheurs et scientifiques. Des liens durables seront créés. Des ponts solides seront bâtis entre les chercheurs, l'industrie, les étudiants et la communauté. Ils permettront notamment aux étudiants d'effectuer des stages dans des entreprises et organisations situées à quelques pas de leur université. Chacun profitera de cette proximité et le transfert de connaissances et de technologies prendra tout son sens. Le quartier de l'innovation sera le lieu où les mots savoir créer, savoir entreprendre et savoir innover prendront vie. Secteur animé. Le quartier de l'innovation sera un endroit où il fait bon vivre et qui fourmillera d'activités à toute heure du jour. La science et la technologie seront visibles partout et accessibles au public, faisant du quartier un véritable laboratoire vivant. Ici, les projets de demain quitteront le papier pour s'incarner dans la réalité. Gestion d'infrastructures partagées, transport public, services à la collectivité, mise en valeur du canal de la Chine, tout sera conçu pour que le quartier devienne une référence en développement durable. Héritant d'un passé riche en art et en culture, le sud-ouest de Montréal a accueilli plusieurs artistes en quête d'un lieu vibrant et inspirant. Ateliers d'artistes, incubateurs de créativité, centres d'exposition, de conservation, d'expérimentation. Autant de lieux de réflexion ouverts à la communauté où art et technologie se rencontreront. Et parce que la multiplicité des points de vue est la clé de l'innovation, la mixité sociale et les infrastructures favoriseront le dialogue. Ainsi, nous pourrons repenser l'avenir ensemble. Immersion terminée. Nous espérons que la visite vous a plu. Avec nous, participez au projet d'un quartier pour tous, durable et novateur, fondé sur le respect de la valeur historique du secteur. Faites tomber les murs, érigez des ponts et contribuez à faire de Montréal l'une des références mondiales du 21e siècle en matière d'innovation.
Voilà quatre acteurs du quartier d'innovation qui reflètent bien les quatre volets. Donc, Jean-François Bourlon, diplômé de l'ETS et maintenant professeur en génie électrique à l'ETS. Mrs. Kendra Alexia F.T. Rossier, McGill Law Student. Madame Francine Philibert, résidente du quartier qui de surcroît travaille à l'ETS. Et Monsieur Éric Santerre, artiste peintre qui pratique son art dans le quartier. Vous avez d'ailleurs une magnifique toile de Monsieur Santerre à l'arrière que vous pouvez regarder. Merci beaucoup. Merci de vous être prêté au jeu. Nous avons maintenant d'autres invités qui vous expliqueront en quelques mots la teneur de leur projet et leur lien avec le quartier de l'innovation. Je vous invite à rejoindre nos intervieweurs, Heather Monroe Bloom et Yves Beauchamp, aux scènes dans la salle.
Alors, rebonjour à tous. Je suis en présence de Alain Lavoie, président de Techno Montréal, ainsi que Guy Raymond, vice-président de la Téléphonie sans fil chez Bell Canada. Monsieur Lavoie. Pouvez-vous nous dire de quelle façon le QI ou le quartier d'innovation numérique s'inscrit dans le projet fédérateur de Montréal Métropole Numérique?
En fait, Montréal Métropole Numérique, c'est un projet fédérateur qui vise à propulser Montréal au rang des grandes smart cities mondiales, en fait des grandes villes intelligentes de calibre mondial. C'est Montréal Métropole Numérique, c'est aussi une action concertée entre les entreprises, les universités et centres de recherche, les gouvernements et citoyens, qui intègrent l'éthique à une approche stratégique de développement économique, mais aussi à une approche de développement durable. Ce projet fédérateur vise trois grands axes. Le premier, la création d'un écosystème entre les entreprises, les institutions du savoir, comme l'ETS et McGill, les gouvernements et les citoyens. Un écosystème qui permettra de créer une synergie entre les différentes parties prenantes. Le deuxième axe, c'est l'utilisation de l'information, de la technologie, pour améliorer nos services collectifs. Et là, je pense à transport intelligent, l'éducation, la santé, le développement des quartiers numériques, etc. Finalement, le troisième axe, et non le moindre, est le déploiement d'infrastructures numériques qui vient supporter les nouveaux besoins créés par les deux premiers axes. En fait, Montréal Métropole Numérique, c'est une vision. C'est une vision pour Montréal numérique. Pour nous, le QI numérique est une composante importante de Montréal Métropole Numérique. Le QI peut être un terrain de jeu pour les nouvelles initiatives qui mettraient de l'avant des projets expérimentaux, un banc d'essai de solutions technologiques intelligentes et numériques au Québec, tout en jouant un rôle de catalyseur de croissance pour notre industrie. Ma réponse est longue, M. Beauchamp. Mais c'est surtout, et ça me tient à cœur, c'est surtout le QI numérique, c'est surtout un accélérateur d'innovation antique qui permettra de valoriser notre savoir-faire québécois en technologie numérique. Prochaine étape consiste à sceller la collaboration avec notre industrie, nos partenaires, pour élaborer un plan d'affaires du QI numérique. Merci.
Merci. Monsieur Raymond, un mot sur l'intérêt des grandes entreprises de télécommunications à se joindre à ce type d'initiative.
Merci. Comme l'expliquait M. Lavoie, un des axes de Montréal Métropole Numérique est le déploiement d'infrastructures venant supporter les nouveaux besoins collectifs et ainsi encourager le développement de cette économie. Pour nous, l'échange d'informations est au cœur du développement. Nous avons ici, à Montréal, au Québec, l'expertise technologique et sommes en mesure de contribuer à ces projets d'infrastructures numériques qui accéléreront le développement économique de Montréal et du Québec.
Merci.
Merci et rebonjour, chers invités. Je suis en compagnie de la professeure Anita Novak de la Faculté de gestion des hôtels de McGill, M. Pierre Morissette, directeur général de Réseau, et de l'étudiant stagiaire, Mme Amy Weinrib. Première question. Professeur Novak, vous dirigez l'initiative d'économie sociale à la Faculté de gestion des hôtels de McGill. Dites-nous quel rôle vous allez jouer dans le quartier.
Bon, mais comme vous le savez, professeur Monroe Bloom, à la Faculté des hôtels, nous avons pour mission de préparer des leaders et des gestionnaires pouvant œuvrer dans tous les secteurs et non uniquement dans le secteur privé. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être une faculté de gestion plutôt qu'une simple école de commerce. L'initiative de l'économie sociale a été créée afin d'intégrer l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale dans l'enseignement, recherche et aux activités de rayonnement de la faculté. Partout au monde, les entrepreneurs sociaux utilisent des approches innovantes afin d'adresser des problèmes et besoins qui, pour l'instant, ne sont pas abordés de manière satisfaisante dans le secteur public ou privé. L'innovation sociale existe depuis longtemps au Québec. En effet, notre économie sociale est admirée partout au monde puisque nos activités entrepreneuriales s'inspirent du bien-être social plutôt que du gain monétaire pur. Elles font aussi la promotion des valeurs comme l'équité et la justice sociale. Sachant qu'une des priorités du quartier de l'innovation est l'innovation sociale, la possibilité de collaborer en découle naturellement. C'est pourquoi je travaille avec Isabelle Péan et l'équipe QI. Le SEI et le QI collaborent afin d'inspirer l'entrepreneuriat social. Ceci inclut la création potentielle d'un laboratoire d'innovation sociale et encourage la résolution de problèmes et un centre d'incubation afin de permettre aux entrepreneurs sociaux de collaborer et de jumeler leurs efforts.
Ah, merci pour sa bonne réponse. Et votre collaboration avec le réseau, par exemple, donne déjà des résultats?
Absolument. Notre travail est très excitant. Voici un exemple. Au printemps, la plupart des étudiants cherchent un emploi d'été afin d'accueillir de l'expérience et de gagner de l'argent. Malheureusement, plusieurs étudiants doivent choisir entre un emploi rémunéré dans le secteur privé et un stage non rémunéré dans le secteur social. Afin d'éliminer ce problème, le SEI a décidé de créer un programme pilote, soit le programme de stage Impact. Nous avons invité 9 organisations, dont 5 faisant partie du réseau recrutement économique du Sud-Ouest, à participer à notre programme en offrant des stages et nous avons invité des étudiants à appliquer. Je suis fière d'être accompagnée par certains de nos candidats au stage, dont Amy Weinrib avec moi ici. Suite à un processus de sélection compétitive, 12 étudiants vont travailler pendant 10 semaines cet été. Chacun verra assigné à un mandat par une organisation d'économie sociale exceptionnelle. Par exemple, un candidat participera au développement d'un nouveau projet pour une nouvelle entreprise qui se spécialise dans les jeux mobiles pour l'impact social. Un autre candidat participera à la création du programme d'engagement communautaire pour une organisation qui encourage des manufactures locales. Et ces deux organisations se situent dans le quartier de l'innovation.
Merci, nous partageons votre enthousiasme pour ces projets. Yves, à vous.
Alors, merci. Je suis de retour avec Sabin Boilly, qui est directeur de l'innovation et des relations avec l'industrie à l'ETS, ainsi que Michael Gardelis, professeur à l'ETS, Patrick Couandet, professeur à HEC Montréal, ainsi que Mme Kimiz Dalkir, professeur à l'Université McGill. Vous allez nous parler du Planétarium, de ce que nous allons faire à l'ETS, mais également par la suite du Hubs de créativité dont vos partenaires et collaborateurs avaient développé tout récemment. Donc, je vous laisse la parole.
Merci, M. Beauchamp. Merci, bonjour à vous tous. Effectivement, pour nous, le Planétarium, c'est plus qu'une opportunité. Cette structure, ce bâtiment-là, va devenir un élément central à l'école. Je dirais le pivot ou encore un endroit où vont s'articuler différents projets de l'école. La première chose qu'on va faire, on va faire une mise à niveau ou une cure de jeunesse au bâtiment. Par exemple, on va redéfinir l'ensemble, l'intérieur du bâtiment pour qu'il redevienne un plateau multifonctionnel. On va faire cela avec des équipes de designers, d'architectes. Première chose qu'on va faire aussi, c'est transformer le stationnement qui donne sur Notre-Dame pour en faire un espace vert. Vous savez comme moi qu'il manque d'espace vert dans le quartier. Quand on aura fait tout cela, bien, ce bâtiment, je dirais, réhabilité, va permettre d'accueillir différents types de projets. Projet pour l'ETS, projet aussi pour le quartier d'innovation. Le projet majeur sera le hub de la créativité, mais nous avons aussi des personnes pas mal mieux placées que moi pour en parler, entre autres le professeur Michael Gardelis du département de génie de la production automatisée de l'école et ses collègues de HEC de McGill.
Bonjour, merci. Effectivement, le hub de créativité est une plateforme neutre dédiée à la production d'idées créatives. Idées créatives qui irrigueront par la suite le quartier d'innovation. Car les idées créatives d'aujourd'hui sont les innovations de demain. Donc le hub de créativité se positionne comme le premier maillon dans le processus d'innovation. Le hub de créativité fédère l'ETS, McGill avec le professeur Kimiz Dalkir, et HEC Montréal Mosaïque avec Patrick Coende et d'autres institutions. Il existe d'ores et déjà une plateforme prototype au sein d'Ingo, proche de l'ETS, pour tester et mettre en valeur les valeurs du hub de créativité. Le hub de créativité accueille donc les entreprises, les universités, les EBNL, les artistes et aussi tous les citoyens. Et quand je dis tous les citoyens, c'est-à-dire des enfants jusqu'aux seniors, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être créatif. Merci.
À vous, Anna.
I'm here in the company of Don Smith, director of Biofuel Net Canada, student Rochelle Bakir, and Professor Joran Mammon. Première question, Don. It was about a year ago that we announced with enormous excitement the creation of Biofuel Net Canada at McGill. Can you tell us what about the importance of Biofuel Net and the advantages of being in the QE?
Sure. By way of background, there's a pressing need to develop sustainable and renewable fuels at this particular time. I don't know if everybody was following this, but last week we began officially crossing the 400 parts per million atmospheric carbon dioxide levels. This is concerning. If you belong to the same cohort I do, the level was about 310 parts per million when you were born, about 340 when you finished undergrad, and it's now 400. If the rise continues at the current rate, it'll be about 500. When the students who are here today are finishing their careers. It is worrying. However, biofuels have the potential to address this challenge to be part of a renewable fuel set for the long term. In this context, BiofuelNet constitutes a major investment in research for the future. If it continues for the full three-year, five-year cycles that it potentially could, and maintains its current partnership levels, the total investment will be on the order of $180 million. BiofuelNet is hosted by McGill and is a major research project in the Quartier d'Innovation, being a national network including 25 Canadian universities, over 80 researchers, and over 100 partners. It also has international collaborations with the U.S., Brazil, India, China, and Russia. Being in the Quartier d'Innovation places us in an area where other key organizations and companies, with other key organizations and companies, facilitating contact and collaboration. For instance, there are three venture capital groups with an interest in biofuels within a few minutes' walk of INGO, where we are housed. INGO by itself has allowed us to house all of our BiofuelNet staff in a single positive space. You should come and visit us, very nice lighting, etc. This has had a considerable impact with regard to helping the network run smoothly and has facilitated constant interactions amongst the staff that allow synergies in thinking and to the benefit of the staff and the entire BiofuelNet researcher and student cohort.
Thank you very much, Don. I know you're here with Professor Jorn Mammon, Executive Director of BiofuelNet. Jorn, je sais que vous avez les bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui.
Oui, merci. Alors, à chaque semaine à BiofuelNet, on reçoit des appels des compagnies qui sont intéressées par ça. Il y a une vraie demande au Canada ces jours-ci pour des carburants renouvelables. Alors, depuis décembre, on parlait avec deux grandes compagnies dans l'espace aéronautique. Et on est très fiers qu'aujourd'hui, on peut annoncer qu'on a signé un contrat avec Airbus et Air Canada pour trouver des solutions de biocarburant canadiennes. On va faire une espèce d'étude, de recherche sur les sources de biomasse canadiennes, des technologies canadiennes pour les transformer en biocarburant et ultimement des recommandations pour comment en utiliser. Il y a des articles qui sortent aujourd'hui et si vous nous suivez sur Twitter et Facebook, il y aura beaucoup plus de détails qui sortiront.
Merci. Yves.
Alors à nouveau, je suis en présence de Mme Lise Brunet, directrice générale d'Avenir Enfants et ambassadrice du QI, M. Vincente Perez, coordonnateur coalition de la Petite Bourgogne, ainsi que Catherine Turcotte, étudiante en génie de la construction à l'ETS. Madame Brunet, en tant qu'ambassadrice du QI, en quoi l'école de l'innovation citoyenne vous semble un projet novateur et qui répond aux valeurs du QI?
D'abord, je dirais qu'on met trois mots ensemble qui ne vont pas ensemble d'habitude. École, innovation, citoyenne. Alors, pourquoi école? Parce qu'on veut mettre à contribution plusieurs sortes de compétences. Donc, les compétences des étudiants de l'ETS, des étudiants de McGill, les compétences des étudiants du Collège Dawson, du Collège André-Laurendeau, les compétences aussi de deux écoles du quartier de la CSDM, parce qu'on veut tout de suite que les jeunes soient associés dès leur plus jeune âge à l'idée de l'innovation dans toutes ses composantes. Il y aura aussi la compétence d'organisme du quartier. Je sais qu'il y a ici des gens de Langue des jeunes et des gens du Club des scientifines, qui essaie justement de lutter contre le décrochage scolaire et aussi d'appliquer l'esprit, d'inciter les jeunes, les jeunes filles en particulier, à l'esprit scientifique. Donc, c'est de mettre tout ce monde-là ensemble pour trouver des solutions innovatrices pour faire face aux défis de la qualité de vie du quartier. On a un quartier qui est en revitalisation, donc oui, vivre ensemble dans un univers où se développe à la fois l'innovation technologique, le développement immobilier, etc. Donc c'est tout un défi. Il faudra trouver des solutions à toutes sortes de petites problématiques. Et en mettant tout ce monde-là ensemble, je pense qu'on va y arriver, surtout qu'on a des gens comme Catherine et Vincente qui sont impliqués, très, très impliqués. Puis je leur demanderai peut-être de me dire qu'est-ce que ça représente pour vous, Catherine, qu'est-ce que ça représente pour toi?
Bien, pour les étudiants, en fait, l'École d'innovation citoyenne représente une occasion unique de s'impliquer dans le quartier et d'agir, de penser des projets concrets pour améliorer la qualité de vie, s'impliquer dans le quartier, puis travailler avec la communauté, ce qu'on ne fait pas souvent.
Merci. Et puis, Vincente, lui, il est coordonnateur de la coalition de la Petite Bourgogne. C'est une coalition qui existe dans le quartier depuis longtemps et qui réunit beaucoup, beaucoup d'intervenants, de groupes communautaires, etc. Alors, pourquoi vous vous êtes impliqué à la coalition, Vincente?
Bonjour. Pratiquement, la plus importante, c'est notre projet qu'on a actuellement, les sentiers de la Petite Bourgogne. C'est un projet de quartier 21 qui s'intègre parfaitement dans ce qu'on peut penser un quartier d'innovation. Alors, on a plusieurs défis techniques et les partenariats avec l'ETS et les McGill, Dawson, etc. Ça va nous permettre peut-être d'atteindre ces objectifs de accès à cette information. Et pour les étudiants, comme Mademoiselle l'a dit, ça va donner un aspect pratique de travail avec les citoyens sur un problème très concret.
Merci.
Merci. Il ne faut pas oublier non plus, Yves, les citoyens, parce qu'on dit École d'innovation citoyenne. Alors, ils seront aussi au rendez-vous. Et juste vendredi dernier, je voulais bien voir ce que c'était le sentier de l'innovation. Je voulais dire sentier de l'innovation. Le sentier de la Bourgogne. Alors, je suis allée avec eux le visiter. Et par exemple, il y a un petit parc qui voulait faire un hommage au jazz band du quartier, Oliver Jones et, Pascal Peterson, oui, qui sont nés dans la Petite Bourgogne, qui ont vécu ici. C'est un petit parc, mais autour, il y a des familles, il y a des HLM. Alors, il y a un défi acoustique, comment on va faire, comment on va consulter les citoyens ailleurs. Il y a un marché communautaire, il faut une marquise. Alors, les étudiants de l'ETS, génie en construction, vont trouver des solutions, c'est certain. Alors, c'est tout ça. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous.
Professeur Will Straw, vous êtes accompagné par une de vos étudiants, Anne-Sophie Garcia, et de Madame Nathalie Volant de Quo Vadis. Première question. Le laboratoire de culture européenne, c'est votre idée. Qu'est-ce que c'est exactement?
On a commencé à faire une étude sur le mandat culturel qui fait un des mandats du QI. Puis, vous savez, je suis sûr, vous devez le savoir, que le Griffintown est le quartier à Montréal où se pousse le plus de nouvelles initiatives en matière de culture. Alors, pourquoi pas avoir un laboratoire de culture urbaine à l'intérieur du quartier d'innovation? Pour nous, ça a été conçu d'abord comme une vitrine sur la communauté, un espace qui donnerait un visage public à la recherche et à l'innovation provenant du quartier d'innovation, un lieu d'attraction à la fois pour les chercheurs, les étudiants de McGill et pour les résidents du quartier, un lieu pour l'exposition des œuvres d'art, pour la collaboration des étudiants et des artistes du quartier, pour les spécialistes en sciences humaines et sociales de McGill. Nous voulons qu'il soit un lieu de collaboration, d'expérimentation, et nous savons que c'est par la culture que l'innovation se donne une face publique.
Merci. Deuxième question. Je pense que vous avez consulté la communauté l'automne dernière pour savoir ce que les gens du quartier veulent développer comme initiative. Et puis, madame.
Oui, absolument. On a trouvé que la communauté voulait surtout un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement, un centre communautaire. Ce qu'un de nos répondants a très joliment défini comme un YMCA de la culture. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Griffintown. C'est vraiment une communauté artistique très dynamique. Mais on sait aussi qu'il manque un pôle d'attraction, un lieu rassembleur. Et c'est ce que nous aimerons construire avec le quartier d'innovation.
Merci beaucoup.
Et pour la dernière fois de mon côté, je suis avec M. Benoît Doret, qui est le maire d'arrondissement du Sud-Ouest, ainsi que Luc Gagnon, qui est le directeur de l'aménagement pour l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, avec le QI, l'innovation vient s'installer dans le quartier, mais aussi le transformer. Et l'arrondissement du Sud-Ouest est un partenaire, bien entendu, de premier plan pour le développement du milieu urbain qui forme la trame de fond du quartier d'innovation. Monsieur le maire, vous avez des projets audacieux en cours de réalisation. Quels sont-ils?
Oui, effectivement, Yves. Alors, l'arrondissement du Sud-Ouest, de concert avec la ville de Montréal, on a développé une vision à long terme de Griffintown. Et bien sûr, ça se marie très bien avec le quartier d'innovation, puisque les deux vecteurs importants du PPU de Griffintown, donc le programme particulier d'urbanisme, intègrent tant l'innovation que la mixité. la mixité parce qu'effectivement, à l'image du reste du Sud-Ouest, on veut une mixité de fonctions, d'usages, mixité sociale. Alors, on veut que les gens viennent habiter, viennent s'y divertir, qu'ils puissent avoir de l'emploi, de l'enseignement, bref, un grand milieu de vie. Et également de l'innovation, puisque l'arrondissement du Sud-Ouest a une longue tradition hein, sur son territoire d'innovation, que ça aille du berceau de l'industrialisation du pays, aller jusqu'à maintenant, en passant par les premiers triplex montréalais. Alors, l'innovation, on la veut bien sûr un peu plus loin avec le quartier d'innovation, où on va joindre la créativité, le développement durable. Et pour nous, c'est l'occasion d'avoir des investissements très importants, non seulement en infrastructure, mais également sur redéfinir le domaine public. Et l'un des concepts innovants, puisqu'il faut avoir des pratiques novatrices, c'est le concept des rues habitées. Un véritable milieu de vie, en fait, un espace de vie important où on va avoir une priorité aux piétons, transport actif, transport collectif, mais vraiment un milieu de vie. Alors, pour nous, c'est des belles occasions, mais des occasions également très concrètes d'avoir des collaborations possibles sur des choses très concrètes de la vie municipale, la gestion des matières résiduelles, possibilité également de partenariat sur le revêtement de la chaussée, gestion intelligente de la signalisation, de l'éclairage, récupération des eaux de pluie. Alors, comme vous le voyez, l'arrondissement du Sud-Ouest, la ville de Montréal est emballée. Monsieur Gagnon.
Oui, merci, M. le maire. Quelques mots pour compléter. Alors, le défi est évidemment emballant à la hauteur de nos ambitions. Et on ne peut que souhaiter au quartier d'innovation d'avoir dans Griffintown le même impact que la fonderie Darling aura eu dans le faubourg des Récollets.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors, je remercie nos correspondants Heather Monroe-Bloom et Yves Beauchamp, ainsi que tous les représentants porteurs de projets du QI. Tout à l'heure, j'ai omis de mentionner la présence de Mme Véronique Fournier, conseillère Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles. Bienvenue parmi nous, Mme Fournier. Un supporteur du quartier d'innovation qui, malheureusement, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Il est en mission économique en Europe, mais il tenait quand même à vous dire quelques mots, Monsieur le maire Michael Applebaum.
Bonjour, je suis situé au Planétarium Dow et comme vous voyez, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir pour la Ville de Montréal de faire partie maintenant de ce quartier d'innovation. On n'est pas le premier au monde à faire un quartier d'innovation, mais nous autres, sera unique. On va faire comme un écosystème d'innovation, où on va avoir des dimensions importantes pour la Ville de Montréal, des dimensions sociales, culturelles, urbaines. Il va y avoir de la formation, aussi la recherche, et clairement aussi l'industrie. Ça va être quelque chose de remarquable pour la Ville de Montréal. Avec tout ce qui se passe dans la Ville de Montréal, et maintenant avec l'arrivée du quartier d'innovation, Montréal est vu clairement dans le monde comme une ville de créativité. Et peut-être on devrait maintenant changer notre slogan, un nouveau pour Montréal, Montreal, thinking outside of the box. La grande force de Montréal, c'est que Montréal, c'est une ville d'universitaires aussi de savoir. Et ce quartier d'innovation, c'est quelque chose de nouveau pour Montréal. Et je ne suis pas surpris que c'est McGill et le ETS. Et j'aimerais vous remercier pour votre engagement, votre travail et tous les partenaires qui vont maintenant participer à cette construction de ce quartier d'innovation. Et pour la Ville de Montréal, je vous assure, on va être là pour vous supporter, pour vous aider et contribuer dans ce nouveau projet remarquable pour la Ville de Montréal. Merci.
Alors, visiblement, il faisait une plus belle température cette journée-là qu'aujourd'hui. J'inviterai maintenant l'honorable Ghislain Maltais, sénateur, à venir nous adresser quelques mots. Monsieur Maltais.
Monsieur le ministre, monsieur le maire de l'arrondissement, mesdames, messieurs les échevins, madame Bellet, députée de l'Assemblée nationale, permettrez de dire un petit bonjour à une de mes anciennes collègues, Louise Arel, qui est à quelque part ici, ainsi que mon collègue au Sénat, excellent porteur de ballon de McGill, Larry Smith. Le gouvernement canadien est heureux de s'associer à ce développement. C'est quelque chose d'unique, possiblement, au Canada. Le savoir, c'est l'avenir du siècle qui est devant nous, dans tous les domaines, que ce soit dans la recherche, dans les arts, dans la culture, dans le génie. C'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai eu l'occasion de ce matin de faire le tour de ce quartier et de voir le dynamisme qui se développe. J'ai un message peut-être à vous lancer. Lorsque le quartier sera terminé, vous savez, on a le droit comme Montréalais, de retourner dans nos terrains de chasse du Québec et du Canada pour exporter ce genre d'innovation. C'est l'avenir et la base même du développement économique de chacune des régions du pays. Vous savez, on critique beaucoup, à tort et à travers les gouvernements, tout le monde y passe. Mais le Canada est le pays, parmi les G7, c'est celui qui investit le plus au niveau de la recherche scientifique avec les universités et les écoles de haute technologie par rapport à son produit brut. Le Canada a un devoir de s'assurer qu'au cours des prochaines années, la science et la technologie vont être appliquées dans tous les coins du pays. Le Québec est un innovateur dans ce domaine. La ville de Montréal est innovatrice. Et je pense que, comme citoyen du Québec, on doit être fier du travail accompli par ces gens, les gens de McGill et les gens de l'OTS. On doit être fier parce qu'ils ont innové, ils ont osé innover et de transmettre le savoir à l'ensemble de la population. Et c'est là, je pense, la clé du succès d'une vitalité économique pour le Québec et le Canada. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Maltais. J'aimerais maintenant accueillir M. Jean-François Lisée, ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur, et ministre responsable de la région Montréal. M. Lisée.
Merci. Merci à vous tous qui êtes là. Écoutez, d'abord, je vais donner un préavis. La principale qualité de mon discours sera sa brièveté. Alors, c'est pourquoi je tiens à saluer d'un bloc tous les élus et les sénateurs, tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre à cet extraordinaire succès en devenir qu'est le quartier d'innovation, et puis ceux qui ont pensé que quartier d'innovation, ça faisait QI. Je ne sais pas si ça a été long, si au début vous aviez innovation dans le quartier, si vous avez joué avec plusieurs combinaisons possibles pour arriver à QI, mais enfin QI, c'est parfait. Ne changez pas, gardez QI. Ça fonctionne très bien. Hier soir, Sugar Sammy a été élu par les citoyens, comme meilleur comédien québécois de l'année. Et avant, il avait été choisi par ses pairs pour le meilleur spectacle de l'année. Quel rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, il a dit en anglais, I'm in. I'm in, je fais partie de la créativité québécoise, je fais partie de l'humour québécois, lui l'enfant de la loi 101, lui qui a des racines anglophones. Ben, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Ben, McGill dit « I'm in ». Et moi, je trouve extraordinaire que cette grande université anglophone de Montréal se soit alliée à un joyau moins connu, mais combien actif dans la génération de savoir-faire technologique et de savoir-faire en génie qu'est l'ETS. Et cette union des deux, cette décision consciente, planifiée, réfléchie de travailler ensemble pour le bien de Montréal, du quartier et du Québec, c'est quelque chose que l'on doit saluer. Et je dis, l'ETS est un joyau moins connu. Écoutez, moi, je suis un diplômé de l'UQAM et ensuite j'ai travaillé pour l'Université de Montréal et je faisais un peu le tour pour le Cerium pour faire des alliances internationales et je disais à l'étranger, quand j'étais dans le milieu anglophone, je disais « I'm from Université de Montréal ». Et mes interlocuteurs disaient « Oh yes, McGill ». Je disais « Non, Université de Montréal ».« That's what I said, McGill ». Alors, vous voyez, cette réputation, elle existe. Il faut l'arnacher. Il faut l'arnacher pour le bien du Québec. Et ce que j'aime aussi dans cette alliance entre à la fois McGill et l'ETS, Dawson et André Laurendeau, c'est cette convergence des talents, cette convergence de nos communautés vers l'innovation, la qualité. Et ce qui est extraordinaire, et ce qui est très 21e siècle, et très québécois dans ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est que ça ne se limite pas à ce pont entre des institutions innovantes. C'est un projet holistique, c'est un projet qui marie également l'aménagement urbain, l'utilisation du lieu, la culture, les citoyens. C'est un projet que, si on l'avait présenté en 1960, on vous aurait dit, ça n'a pas de sens. De quoi vous mêlez-vous? De quoi est-ce que McGill se mêle que d'être dans la culture? De quoi est-ce que l'ETS se mêle que de parler au maire d'arrondissement? De quoi est-ce que le maire d'arrondissement et la députée se mêlent d'essayer de dire à des universités, ben maintenant, on s'en mêle volontairement parce que c'est lorsqu'on additionne chacune de ces préoccupations, lorsqu'on les fait ensemble, que la création rend beaucoup plus de résultats que si chacun travaille en silo. Finalement, le quartier d'innovation, un slogan, je ne vous le propose pas, mais ça pourrait être mort au silo, mort à la pensée en silo. Vive le rassemblement et vive le partage de création. Alors, où est-ce que ça se situe dans notre projet pour Montréal? Quand on se projette dans un avenir proche, 2017, pour prendre une année au hasard, hein, l'année de fondation de Montréal, 50e anniversaire de l'Expo, et cette idée de l'Expo, ce sentiment qu'on avait en 67, j'y suis allé, moi, à l'Expo. J'étais jeune, mais j'y suis allé. C'est que tout était possible à Montréal. Et c'était la modernité, c'était l'invention, c'était sortir de la boîte, c'était épater le monde et s'épater nous-mêmes. Alors, où est-ce qu'on veut aller? On veut que, évidemment, comme le dit Daniel Lamarre, que Montréal soit vu chaque année comme le Davos international de la créativité. Mais vous savez, on compare à Davos. Davos, c'est un centre de ski. Un centre de ski, ça aurait pu être n'importe où ailleurs. Ce n'est pas le centre mondial de l'économie. Mais on a une raison de faire de Montréal le centre international de la créativité et de l'inventivité, c'est parce qu'on ne fait pas que du ski dans la région de Montréal. On invente et on crée. Okay? Et donc, c'est un peu la pointe de l'iceberg, ces deux MTL. L'iceberg existe. Hein? On construit l'iceberg, on le préserve. Mais ce qu'on veut, c'est dans quelques années que les jeunes qui veulent créer et innover, qu'ils soient à Singapour ou à Shanghai ou à San Francisco ou à Berlin, se disent... C'est extraordinaire ce qui se passe à Montréal. Le nombre de choses qu'ils inventent en sciences de la vie ou en ingénierie ou en jeux vidéo ou autre chose, en culture, en cirque, nommez-les, je veux être là, moi. C'est là que ça se passe. C'est un des endroits où ça se passe. C'est la réputation qu'on veut avoir, la réputation d'attractivité. Et on veut qu'un peu partout dans le monde, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer à Montréal cette année? Pas une fois de temps en temps, il y a quelque chose. Non, on crée une accoutumance, comme on le fait en cinéma. En cinéma, maintenant, après 3 ans avec un film en compétition pour le meilleur film étranger aux Oscars, notre réputation, c'est pas une fois de temps en temps, ils font un bon film. Notre réputation, c'est quel sera le bon film québécois l'an prochain. Mais c'est ce qu'on veut faire pour l'ensemble de la créativité. Et le quartier d'innovation, son rôle, c'est de générer de l'inventivité, de générer de l'attractivité et de faire dire au monde entier... Qu'est-ce qu'ils vont inventer à Montréal encore l'an prochain? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Lisée. Alors, thanks to all the ambassadors, all the project representatives that were here today. S'il y a des journalistes qui désirent des entrevues, vous pourrez rencontrer Mme Julie Fortier, directrice associée Relations avec les médias de l'Université McGill, ici à l'avant, lorsque nous aurons terminé la présentation. Il y aura des événements importants bientôt dans le quartier de l'innovation. Le prochain sommet sur l'innovation aura lieu en octobre et portera sur les réseaux électriques intelligents et durables. Et bien sûr, M. Lisée en a parlé, la pointe de l'iceberg, C2 Montréal, et le prochain grand événement créatif à Montréal, et ça se passe nulle part ailleurs que dans le quartier de l'innovation. On regarde la vidéo. Alors moi qui me sentais créatif et innovateur avec mon iPad à l'animation, ça me dit que j'ai encore du chemin à faire, une vidéo comme ça. J'invite M. Benoît Berthiaume, directeur de C2 Montréal, à venir vous parler un peu de son événement. M. Berthiaume.
Alors merci. Ça a été long, je pense, un peu, toutes les présentations. Je vais tenter vraiment d'être bref, mais essentiellement, premièrement, félicitations aux organisateurs de la rencontre d'aujourd'hui. On voit qu'il y a un mouvement qui s'installe, puis nous, C2 Montréal, on est content de participer à ça. Si on était dans une course de voile olympique, je dirais qu'on approche du moment où on va sortir le spinnaker. Excusez le terme francophone, je ne connais pas, mais donc la grande voile. Et dans moins de 8 jours, donc mon équipe, tout comme moi, sommes très fébriles de présenter la deuxième édition de C2 Montréal, qui en 2012 a donc réuni près de 1250 dirigeants d'entreprises de partout à travers le monde. Et à l'ère des communications, C2 Montréal, c'est un lieu, c'est un rendez-vous annuel, une occasion de faire tomber les barrières entre les grappes industrielles, de tous travailler ensemble et de se réunir pour offrir le meilleur de Montréal au niveau, je dirais, de la promesse expérientielle que nous avons bien voulu vous démontrer, mais aussi intellectuelle et toute la conjugaison. Donc, pour réaliser une promesse économique qui va faire de Montréal, que justement, peut-être très bientôt, à l'ère des communications, sera vue et sera reconnue comme une terre de créativité et d'innovation. Donc, je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour ceux et celles qui veulent se procurer des billets. Il reste encore quelques billets. C'est accessible. C'est un endroit beaucoup plus vaste que l'an dernier. Nous installons donc dans le quartier d'innovation, évidemment. C'est un naturel. C'est un fit parfait pour nous et ce, pour les prochaines années. Nous sommes donc fiers d'annoncer. Nous sommes à l'Arsenal sur la rue Notre-Dame et la rue William, avec le canal de la Chine en bordure et avec les hangars industriels, le caractère industriel du lieu. Je pense qu'on va surprendre le monde entier la semaine prochaine avec une scénographie et un contenu expérientiel hors du commun. On réunit des gens du festival de jazz, de tous les festivals et événements de Montréal. Il y a des prestations du Cirque du Soleil, évidemment. Et je tiens à rendre hommage donc aux initiateurs de ça, qui en ont aussi, entre autres, Daniel Lamarre, Jean-François Bouchard et Charles Lapointe, qui en 2007-2006 ont dit « il faut faire rayonner Montréal, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et on a pris cet organisme sans but lucratif qui permet donc cet organisme de générer un fonds intéressant de commandite et d'aide. Et cette réussite-là, on la doit aux initiateurs, mais aussi à toute la communauté qui s'implique dans C2 Montréal. C'est vraiment beau de voir ça en 2013, que tout le monde mette l'épaule à la roue, qu'on se le dise, il y a une guerre économique en quelque part qui existe et il faut qu'on soit les meilleurs dans l'ère des communications. C'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on va vous démontrer la semaine prochaine. Merci beaucoup. Donc, je donne rendez-vous le 21 mai prochain à C2 Montréal. Merci.
Merci beaucoup, M. Berthiaume. Avant de vous laisser discuter, visitez les kiosques à l'arrière ou tweetez vos photos prises avec M. Lisée, Mme Harel, Mme Blais. J'ai quelques informations à vous livrer. Nous avons préparé un beau pique-nique dans la rue piétonne à l'avant, mais comme Dame Nature nous rappelle aujourd'hui que nous sommes encore le printemps, qu'au printemps, des serveurs passeront à l'intérieur pour vous offrir des bouchées. Le restaurant traiteur La Brigade Volante est une entreprise située dans le quartier et qui est inspirée et passionnée par les saveurs. La Brigade Volante, vous verrez, offre des menus innovants qui sauront satisfaire vos papilles. Si vous tenez absolument à sortir, il y a 4 stations, station barbecue, station asiatique, station sud-ouest, et on me dit de ne pas manquer le baiser du dragon en guise de dessert. Vous avez 2 bars à l'arrière pour offrir des rafraîchissements à l'intérieur seulement. Il y aura un quartet de jazz composé de diplômés de McGill qui jouera de la musique. On leur a permis de jouer à l'intérieur, donc on est quand même généreux avec nos musiciens. Et avant de terminer, je demanderai à Mme Heather Monroe Bloom, M. Yves Beauchamp, M. Jean-François Lisée, M. Ghislain Maltais, Mme Marguerite Blais, M. Benoît Doré, M. Lamarre, M. Berthiaume et tous les ambassadeurs du QI à venir à l'avant pour une photo officielle du lancement du quartier de l'innovation. Merci à tous pour votre aimable attention et une agréable fin de journée. Merci.